Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. À la une, ce vendredi 4 novembre. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle à une grande manifestation à Bamako après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo jugée blasphématoire contre l'islam. En Éthiopie, les rebelles du Tigré dénoncent un bombardement après le cessez-le-feu. En République démocratique du Congo, le président Tshisekedi appelle les jeunes à s'organiser en groupe de vigilance face aux rebelles du M23. Visite controversée du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Mali, plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel du Haut Conseil islamique ce vendredi pour dénoncer les actes de blasphème contre la religion musulmane. Il s'agissait aussi d'appeler les autorités à prendre les mesures pour sanctionner de tels actes. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko, était sur place. Écoutons son compte-rendu.
Juste après la prière du vendredi, ils sont plusieurs milliers de personnes sous un soleil ardent, femmes, hommes et enfants, à affluer au pied du monument de l'indépendance pour répondre à l'appel du Haut Conseil islamique et de son président Ousmane Sherif Madane Haïdara pour protester contre le blasphème qu'il y a eu lieu en milieu de semaine dernière. Les uns et les autres expliquent la raison de leur présence.
On est présent ici aujourd'hui parce qu'on s'en est pris vraiment à l'islam, à Allah, à la Kaaba et tous les symboles de l'islam et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes là pour vraiment protester, montrer notre mécontentement et dire plus jamais ça au Mali.
Je suis là parce que c'est un appel qui a été lancé à l'endroit de tous les musulmans de manifester leur mécontentement par rapport à ce qui s'est passé.
Sur place, on constate la présence de plusieurs leaders politiques, notamment Modibo Sidibé, Mohamed Ali Batili, à leur côté des leaders religieux, le président du Haut Conseil islamique, qui vient de faire son arrivée, Ousmane Madane Haïdara et toute sa famille et son prédécesseur Mahmoud Diko sont tous là aux côtés des fidèles musulmans pour dire non à ce qui s'est passé en milieu de semaine dernière, notamment le blasphème contre l'islam et son prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Toujours au Mali, 6 personnes, dont un écrivain, ont été placées hier en détention provisoire pour délit à caractère religieux pouvant causer des troubles à l'ordre public après que le ministre des Affaires religieuses a accusé un homme de propos et actes blasphématoires. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Bamako. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a déclaré avoir refusé de se soumettre à un test ADN lors de sa première audition jeudi pour des accusations de viol. Monsieur Sonko, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, a été inculpé pour viol et menace de mort et placé sous contrôle judiciaire après avoir été visé par une plainte d'une employée d'un salon de beauté. Pour Monsieur Sonko, il s'agit d'un complot orchestré par le président Macky Sall pour l'éliminer de la course à la présidence en 2024. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a appelé hier soir la jeunesse de son pays à s'organiser en groupe de vigilance face à la rébellion du M23. Rendez-vous en seconde partie de cette édition pour un reportage de notre correspondant sur place. Et puis dans l'est de la RDC, toujours, 3 personnes ont été tuées hier lors d'une bousculade pendant la distribution de nourriture dans un camp déplacé non loin de Goma. Ce camp abrite près de 17 500 personnes ayant fui les combats entre l'armée et les rebelles du M23. Au Cameroun, les partisans de Paul Biya s'apprêtent à célébrer dimanche ses 40 ans de règne. Des festivités seront organisées sur fond de guerre dans les régions anglophones et la lutte contre les djihadistes dans l'extrême nord du pays. Plus de détails avec Nanit Talani.
Pour ce 40e anniversaire, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ou RDPC, au pouvoir, promet une grande fête pour célébrer la stabilité et la paix au Cameroun. De nombreux rassemblements et meetings seront organisés par les 360 sections du parti, dont un méga-meeting régional à l'hôtel de ville de Yaoundé. Des casquettes, écharpes, chemises et tenues multicolores à l'effigie de Paul Biya sont vendues. On ne sait pas encore si le principal intéressé sera de la partie. Mais l'ambiance festive ne peut faire oublier la lutte contre les djihadistes dans l'extrême nord et le conflit armé dans les régions anglophones. Pour l'opposition, cet anniversaire est l'occasion de dresser un sombre bilan de la régression et la corruption. Elle veut faire du 6 novembre un jour de deuil et invite les Camerounais à se vêtir de noir pour l'occasion.
Les rebelles du Tigré accusent l'armée d'Éthiopie d'avoir mené une frappe de drone sur des civils au lendemain d'un accord de cessation des hostilités conclu à Pretoria. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
Un drone éthiopien a attaqué des civils hier à Mekeo, au Tigré, a affirmé sur Twitter un porte-parole des rebelles tigréens, faisant également état de bombardements d'artillerie sur la ville, ayant tué et blessé des civils. Ces informations n'ont pu être vérifiées de sources indépendantes. Ni le gouvernement éthiopien, ni l'Union africaine n'ont réagi dans l'immédiat à ces accusations. Ce vendredi marque le deuxième anniversaire de la guerre meurtrière entre le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles du Tigré. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a participé aujourd'hui à une réunion durant laquelle son conseiller à la sécurité nationale a présenté l'accord signé à Pretoria. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a exprimé aujourd'hui un optimisme mesuré. Selon lui, faire la paix va être très difficile après la guerre affreuse de ces deux dernières années dans le nord de l'Éthiopie.
Le président ougandais Yoweri Museveni a de nouveau exclu ce vendredi d'imposer un confinement national pour contenir la propagation du virus Ebola. Il a écarté tout projet de confinement, exhortant plutôt les habitants à être plus vigilants et à observer les mesures mises en place pour contrôler la propagation d'Ebola. L'épidémie d'Ebola a fait 49 morts selon le gouvernement ougandais. L'OMS a pour sa part indiqué mercredi que le pays a enregistré plus de 150 cas. Au Soudan du Sud, près de 8 millions de personnes, soit les deux tiers de la population, sont menacées d'insécurité alimentaire et de famine, a averti l'ONU. La faim et la malnutrition sont en hausse dans les zones touchées par les inondations, la sécheresse et les conflits, détaille l'ONU qui précise que les niveaux d'insécurité alimentaire et de malnutrition n'a jamais été aussi élevés, dépassant même les niveaux observés pendant le conflit.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En visite à Pékin ce vendredi, le chancelier allemand Olaf Scholz a plaidé pour davantage de coopération avec la Chine, malgré une défiance de l'Occident vis-à-vis de la deuxième puissance mondiale. Les deux pays se sont opposés par ailleurs à tout emploi de l'arme nucléaire en Ukraine. Mohamedou Oumfa.
Ce déplacement de quelques heures est le premier d'un dirigeant de l'Union européenne et du G7 en Chine depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a près de 3 ans. Lors d'un entretien avec le président Xi Jinping, Olaf Scholz avait indiqué vouloir développer davantage la coopération économique avec Pékin malgré les avertissements sur une trop forte dépendance de son pays vis-à-vis de la Chine. La Chine et l'Allemagne doivent se respecter mutuellement et résister conjointement aux interférences dans leurs relations, a insisté Xi Jinping devant son invité. Nous espérons que l'Allemagne poursuivra une politique positive à l'égard de la Chine, a dit le président chinois. Nous nous rencontrons à un moment de grande tension causée par la guerre de la Russie en Ukraine, a souligné M. Scholz, alors que la Chine revendique sa neutralité, vue par les Occidentaux comme un soutien tacite au Kremlin. Le chancelier a demandé au président Xi de faire jouer son influence sur la Russie afin qu'elle mette fin à sa guerre d'agression contre l'Ukraine. L'Allemagne et la Chine ont conjointement annoncé leur opposition à toute idée de frappe nucléaire.
En Ukraine, près de 4,5 millions de personnes ont été privées d'électricité la nuit dernière en raison de frappes russes contre les infrastructures du pays. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé une terreur énergétique. Le ministre américain des Finances a annoncé ce vendredi la mise en place de sanctions visant directement deux responsables politiques haïtiens, dont le président en exercice du Sénat, Joseph Lambert, ainsi qu'un de ses prédécesseurs, Youri Latortue, accusé d'avoir contribué activement au trafic drogue transitant par l'île caribéenne. Le réseau social Twitter a entamé ce vendredi une vague mondiale de licenciements une semaine après son rachat par le milliardaire Elon Musk. Selon le Washington Post, M. Musk a prévu de licencier environ 50% des quelques 7500 employés du groupe. Et puis la nouvelle fusée géante de la NASA est de retour sur son pas de tir en Floride pour une nouvelle tentative de décollage vers la Lune dans 10 jours. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La 11e édition d'Africa Digital Expo 2022 se tient à Kinshasa. Elle a été lancée hier par le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé en présence de représentants de plusieurs pays africains. Monsieur le Kondé a souligné que le président Félix Tshisekedi a placé le numérique au cœur de la transformation économique de la RDC qui s'est dotée d'un plan national et d'un ministère du numérique. Dans le même temps, la capitale sénégalaise Dakar est au rendez-vous de la 7e édition du Salon monétique régional. L'événement porte sur la transformation des paiements et des services financiers de l'UEMOA et la lutte contre la fraude. 300 opérateurs et fournisseurs de solutions de paiement y participent. Le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA a lancé une plateforme de paiement avec Global Technology Partners. Selon les données de l'indice composite des cours des produits de base de la Banque des États de l'Afrique centrale, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique ont produit une cargaison totale de 465 300 tonnes de coton graines en 2021. Le Cameroun a assuré à lui seul plus de 73% de cette production et le Tchad 26,4%.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire et bonsoir à tous.
Le coq sportif reste l'équipementier des Lions indomptables du Cameroun.
Tout à fait Claire, la justice française en a décidé ainsi. Elle a annoncé que la rupture du contrat par la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, n'était pas en règle. Or, la marque One All Sports est devenue l'équipementier officiel de la FECAFOOT depuis quelques semaines, à 15 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022. Seul le Cameroun n'a pas encore dévoilé ses maillots. C'était prévu pour demain samedi 5 novembre. Cette présentation des maillots camerounais est donc prise au piège de cette décision judiciaire. Quelle sera la réaction du Cameroun? Affaire à suivre Claire.
Le défenseur du FC Barcelone, Gérard Piqué, a étonné la planète football jeudi avec l'annonce surprise de sa retraite.
Une après-carrière déjà minutieusement planifiée de longue date, investissement dans l'immobilier, les jeux vidéo, le football, le tennis et un objectif à terme, la présidence du FC Barcelone. Il sera président du Barça, cela ne fait aucun doute, a avancé le président de la Liga, Javier Tebas. Le défenseur lui-même l'a laissé entendre dans sa vidéo postée jeudi pour annoncer sa fin de carrière. Tôt ou tard, je reviendrai. Sa rencontre avec la chanteuse Shakira lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, que l'Espagne a remportée, lui a ouvert les portes du monde de sport business.
NBA, les Nets suspendent Irving qui finit par s'excuser d'avoir promu un film à caractère antisémite.
À toutes les familles de la communauté juive que j'ai blessées, je suis profondément désolé de vous avoir causé de la peine. Je m'en excuse, a écrit la star sur son compte Instagram quelques heures après avoir été suspendu par les Brooklyn Nets, premier à dégainer, certes tardivement, une sanction réclamée par beaucoup à la NBA, confondante de passivité. Je veux clarifier ma position concernant la lutte contre l'antisémitisme en m'excusant d'avoir mis en avant ce documentaire. Je n'avais aucunement l'intention de manquer de respect à l'histoire juive ou de perpétuer la haine. Je tire les leçons de cet événement malheureux et j'espère que nous pourrons trouver la compréhension entre nous tous, a-t-il ajouté.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. En RDC, le président congolais Félix Tshisekedi lance un appel à la mobilisation générale pour défendre le pays. Il a dit hier soir dans une adresse à la Nation. Dans son discours d'une dizaine de minutes, il a appelé ses compatriotes à mettre de côté leurs divergences politiques, tribales et religieuses pour défendre la patrie. Un appel diversement apprécié dans l'opinion congolaise. Depuis Kinshasa, nous faisons le point avec notre correspondant Alex Kati Kataï.
C'est un Tshisekedi visiblement très affecté par la situation dans l'est du pays qui s'est adressé à la nation dans la nuit. Dans son discours, le président congolais a expliqué à ses compatriotes les efforts qu'il a entrepris depuis son avènement au pouvoir pour gagner la paix avec ses voisins. Il a notamment parlé des différents accords commerciaux signés avec l'Ouganda et le Rwanda dans le but de favoriser les vivre ensemble. Mais malheureusement, Tshisekedi déplore le fait que ses voisins aient abusé de sa bonne foi et lui imposent la guerre.
En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais. Et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels.
Face à ces situations sécuritaires déplorables, le chef de l'État a lancé un appel à la mobilisation générale de tous les Congolais pour sauver la patrie. Il demande de mettre de côté les divergences pour défendre la nation du danger.
À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité.
L'appel du président est diversement apprécié dans l'opinion nationale. Certains saluent la prise de conscience des autorités suite au danger qui guette le pays. César Mpoy, juriste et analyste politique.
Il est important que lorsque le pays traverse des moments aussi importants que maintenant, le chef de l'État prenne ses responsabilités et qu'il rappelle ses compatriotes à la vigilance et qu'il les appelle à la prise de conscience. Parce que la mère patrie est en danger et que c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement l'affaire du chef de l'État ou de sa famille politique, c'est l'affaire de tous les Congolais. Voilà pourquoi il est important que le chef de l'État le rappelle personnellement à ses compatriotes.
D'autres dans l'opposition estiment que Félix Tshisekedi devait au préalable consulter les forces vives ainsi que la classe politique avant de lancer cet appel. C'est le cas de Franck Diongo, opposant et candidat déclaré à la présidentielle de 2023.
Comment il va mobiliser les protestants et les catholiques? Il est en antagonisme. Comment va-t-il mobiliser l'opposition quand il est en antagonisme? Le président n'aurait pas dû mobiliser sans consulter l'opposition politique, les chefs religieux qui sont en antagonisme avec lui, pour créer une cohérence. Lorsqu'on crée la cohérence, à ce moment-là, il y aura la cohésion pour atteindre un objectif. Il n'a pas annoncé une contre-offensive organisée, planifiée. Il n'a pas annoncé la déclaration de guerre. C'est un discours de gestion d'opinion.
Sur le terrain, dans l'est du pays, les populations déplacées ont commencé à recevoir de l'aide humanitaire des autorités congolaises. Une aide qui reste insignifiante face aux besoins criants. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Pour sa part, la rébellion du M23, qui a pris certaines localités dans l'est de la RDC, continue de demander le dialogue avec Kinshasa. Pour une réaction, Eddy Sango a joint dans le Rutshuru le porte-parole du M23, le major Willy Ngoma.
Nous voulons les dialogues avec le gouvernement. Nous sommes pour la paix, nous ne voulons pas la guerre. Donc nous sommes là pour et nous devons les protéger comme il faut.
Oui, mais ça va un peu dans le sens de ce que le président Félix Tshisekedi a dit hier dans son discours. Comment vous réagissez-vous par rapport à cela?
Précisément dans quelle langue? Puisqu'il a parlé dans beaucoup d'angles. Dans quelle langue précisément?
Le président Félix Tshisekedi a dit que toutes les rencontres qu'il a eues avec notamment les chefs de l'État rwandais et les autres demandent à ce que vous déposiez les armes et que vous quittiez les endroits dont vous avez les contrôles. Comment vous réagissez par rapport à ça? Il a appelé aussi à la mobilisation générale du pays.
À dire que non, les M23, comprenez les problèmes du M23, mettre ça dans le dos du Rwanda, c'est un pis-aller. Donc, on cherche un bouc émissaire, mais on ne veut pas résoudre les vrais problèmes dans ce sens-là. Nous allons quitter pour aller où? Nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas des Rwandais, nous sommes des Congolais. C'est les problèmes qui existent. Donc, on nous traite comme des Rwandais, d'autant plus que nous sommes des Congolais, mais on dit que nous sommes des Rwandais. Et sur quoi? Ils disent qu'il faut nous exterminer. C'est ça le problème, monsieur.
Mais le président a mis en garde tous les Congolais par rapport aux actes et aux discours xénophobes. Vous n'avez pas entendu cela?
Monsieur, lorsque, par exemple, un général qui dit au gouvernement qu'il faut prendre des machettes, lorsqu'un député dit qu'il faut exterminer le rwandophone, lorsque on, à Kinshasa, par exemple, on commence, donc on tue, mais on n'arrête personne, on dit absolument rien. Non. Les bons faiseurs ne sont pas les bons faiseurs, monsieur. On peut parler, mais on ne fait rien, absolument.
Et le président Félix Tshisekedi dit qu'il privilégie jusqu'à ce point les dialogues, mais que toutes les tentatives n'ont rien apporté et que la guerre était aussi envisageable, n'était pas exclue. Comment vous réagissez?
On peut dire des histoires pour faire plaire à la communauté internationale. On dit des histoires erronées, biaisées. Bon, des histoires tellement indies et incongrues, dans le sens où il faut attirer l'attention de la communauté internationale. Mais ce que nous disons, nous voulons le dialogue, nous sommes ouverts au dialogue. Mais s'il vient nous attaquer par exemple, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous défendre. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons le dialogue. Mais s'il vient nous attaquer, et c'est quoi? Nous allons nous défendre. Rien que ça, et nous allons défendre la population qui sont sous nos contrôles, monsieur. Puisque dès que nous les laissons, on doit les massacrer.
Et s'il vous refuse ce dialogue, comme vous le demandez, jusqu'où irez-vous?
C'est que nous disons que le gouvernement puisse être un interlocuteur approprié et un gouvernement responsable. Je ne pense pas qu'il puisse refuser le dialogue, qu'il puisse... Donc, choisir la guerre.
C'était le major Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
La situation de la liberté de la presse au Burundi s'est considérablement dégradée. La censure est stricte, une loi plus restrictive sur la liberté de la presse a été adoptée. Les chaînes qui ne respectent pas les directives gouvernementales sont parfois fermées. Des journalistes évoquent les violences dont sont victimes leurs proches. Des dizaines de journalistes ont été contraints à l'exil. Nanit Talani a joint à Bruxelles, en Belgique, Innocent Mouhosi, président de l'Observatoire de la presse burundaise.
Bon, de façon générale, il n'y a pas de liberté de presse au Burundi depuis 2015. Avec la crise de 2015 et du troisième mandat de ce président Nkurunziza, la répression qui s'en est suivie après la tentative de coup d'État contre le président Nkurunziza, ça a été l'occasion de détruire les quatre principaux médias indépendants du pays. Ça a été occupé par la police. Entre-temps, la loi sur la presse a été changée, où une clause obligeant les journalistes à divulguer leurs sources a été introduite. S'il n'y a pas de protection des sources, il n'y a plus de liberté de presse. Deux des médias ont été réouverts, mais à des conditions justement que le CNC leur impose, de ne pas toucher aux questions sensibles du pays.
Quelles questions sensibles?
Les questions en rapport avec la sécurité, les questions en rapport avec la corruption, avec toute l'interprétation large qui peut en être faite à chaque occasion. Les journalistes ont entre-temps été arrêtés, emprisonnés, tabassés, sans parler de ceux qui ont été assassinés déjà en 2016, c'est-à-dire le caméraman de la télévision nationale, Christophe Nezabahizi, qui a été trouvé chez lui par la police dans sa maison. Il a été sorti de la maison, abattu devant son portail, sa femme aussi. Soit des enfants, deux de leurs enfants et un neveu qui étaient là, ont été abattus publiquement en pleine journée. Et à l'époque, le porte-parole de la police avait dit qu'il y a 5 assassins qui ont été neutralisés. Les 5 assassins, c'est cette famille-là, donc tuée par la police clairement. Après, c'était le journaliste Jean Bigirimana du journal Iwachu, qui était en reportage à l'intérieur du pays, qui a été enlevé par des agents des services de renseignement, puisque ses derniers contacts au niveau de son téléphone ont révélé un agent des services de renseignement. On n'a jamais retrouvé son corps. Sa femme a été terrorisée. On l'a emmenée dans une salle où il y avait deux cadavres méconnaissables, dont un qui n'avait pas de tête. Donc elle n'a jamais pu reconnaître si c'était son mari ou pas. Et il n'y a toujours pas de suite. L'agent en question de renseignement a par la suite lui aussi subi le même sort. Il a été porté disparu. Donc ça, c'est vraiment les cas les plus extrêmes. Et à l'occasion justement de ces événements qui s'étaient passés, quand la police et l'armée avaient attaqué les quatre médias, ça a provoqué une fuite vers l'exil d'à peu près une centaine de journalistes burundais qui sont aujourd'hui encore en exil.
Qu'est-ce qui pourrait changer de façon positive la situation de la presse ou bien des journalistes au Burundi?
En fait, la situation de la presse des journalistes au Burundi est liée à une situation plus globale qui est extrêmement grave. C'est vraiment un enchaînement d'un cadre beaucoup plus vaste de contexte politique du pays qui aussi frappe les journalistes et les médias. Mais il n'y a pas que les journalistes et les médias, bien évidemment. Depuis l'époque, il y a eu à peu près 450 000 réfugiés dans la sous-région. Il y en a encore plusieurs centaines de milliers. Certains sont rentrés, d'autres sont toujours en exil. Il y a toujours des disparitions forcées au Burundi aujourd'hui. Il y a eu plusieurs centaines de disparitions forcées. Il y a eu plus de 2000 morts identifiés. Donc c'est une situation quand même qui dépend beaucoup plus du contexte politique global que de la situation simplement des médias.
C'était Innocent Muhoozi, président de l'OPB, l'Observatoire de la presse burundaise.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, dans l'État de l'Arizona, les Hispaniques constituent le deuxième groupe électoral le plus important. Et pour les élections de mi-mandat de cette année, les jeunes latinos pourraient être une force déterminante pour le changement dans l'État. George Agobian de la VOA s'est rendu à Tucson. Il a rencontré certains de ses électeurs pour connaître leurs attentes. Le récit est de Thierry Kaoré.
Ces étudiants sont convaincus que le pouvoir de vote hispanique en Arizona sera décisif lors des élections de mi-mandat et que leurs voix peuvent avoir un impact. Abigail Chavez est une électrice en Arizona. Elle votera pour la première fois.
Si plus de latinos sont motivés pour voter, bien sûr, nous pouvons le faire.
Jesús Hinojosa votera également pour la première fois.
Beaucoup de membres de ma famille ne votent pas. Ils ne veulent pas voter. Et je crois qu'il peut y avoir du changement si les latinos votent.
L'Association nationale des élus latinos estime que plus de 664 000 électeurs hispaniques en Arizona voteront lors des mi-mandats, marquant ainsi un tournant dans la participation électorale des latinos. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les Latinos d'Arizona sont jeunes, avec un âge moyen de 27 ans, ce qui signifie un pouvoir politique croissant. Carolina Rodriguez est directrice nationale de l'organisation à but non lucratif Ma Famille Vote.
Il sera très important pour les candidats et les partis politiques de prêter attention aux principales questions concernant les Latinos, en particulier les jeunes.
Carolina Rodriguez a mené une campagne axée sur les Latinos qui a permis d'enregistrer plus de 35 000 nouveaux électeurs cette année et les attentes sont nombreuses. Écoutons à nouveau Abigail Chavez qui votera pour la première fois.
Comme ma famille est originaire du Mexique, les problèmes que rencontrent les sans-papiers et l'aide aux sans-papiers.
De nouveau, Jesús Hinojosa, un électeur qui votera pour la première fois.
Pour moi, c'est l'économie. L'économie parce que tout est très cher.
Inés Reyes est une autre électrice qui votera aussi pour la première fois.
Le droit à la vie pour chaque personne. Il y a des problèmes avec l'avortement.
L'inflation, la criminalité liée aux armes à feu et l'emploi sont les principales priorités des électeurs hispaniques en Arizona, selon un récent sondage réalisé par Unidos US. Carolina Rodriguez, directrice nationale de l'organisation à but non lucratif, Ma Famille Vote.
Ils veulent savoir comment contribuer à améliorer leur vie et ils veulent savoir où et quand voter pour s'assurer que leur voix est entendue dans cette élection.
Les Latinos constituent le deuxième groupe électoral en Arizona et, globalement, le secteur de l'électorat américain a la croissance la plus rapide.
C'est la... la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute la rédaction et à l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.